Bien sûr, ce cheminement s'inscrit dans le temps. Il faut d'abord gommer l'envie de retourner au pays, s'acclimater, bon an, mal an, déployer enfin des racines dans la terre d'accueil. Nicole, étudiante en sociologie, a décidé de consacrer son mémoire à cette progression. Le mot « intégration » signifie quelque chose de différent pour chacune de ces femmes, constate-t-elle. Dans un premier temps, s'intégrer à la société suisse ne leur paraît pas essentiel. Certaines femmes naviguent des années à l'intérieur de leur propre communauté. Elles ne voient que des gens de leur nationalité, ce qui explique qu'après 10 ans passés ici, elles parlent encore souvent très mal le français. Alors, bribes de paroles, bribes de vie, bribes de souffrance, souvenirs de guerre. Depuis quelques mois, Nicole écoute. Et ça n'a rien de déprimant, dit-il. La solidarité qui se crée entre toutes ces femmes est réelle, elle existe. Chacune apprend à mettre en valeur ses propres ressources. Fouiller en soi pour trouver des solutions, voilà l'un des sésames du Centre Femmes. Et ça marche. Natacha dit qu'il faut casser l'idée de l'assistance. Dire oui. Ces femmes ont un tracé de vie difficile, oui. Elles ont fui la guerre, oui. Mais aussi se demander ce qu'elles peuvent apporter par leur expérience. D'ailleurs, nombre d'entre elles ont suivi des études supérieures ou ont achevé une formation dans leur propre pays. Mounifa, qui a 54 ans, est technicienne dentaire. En Bosnie, elle possédait même un petit laboratoire privé. « J'avais travaillé 30 ans, dit-elle, et il ne me restait qu'une année avant la retraite. » J'imaginais voyager, aller en Suisse peut-être. Aujourd'hui, je suis là, réfugiée. À mon arrivée il y a 4 ans, je pleurais tout le temps. Je me sentais perdue, avoue-t-elle. Mais on lui a parlé du Centre Femmes de Lausanne et depuis, elle y vient, souvent, 2-3 fois par semaine. C'est un peu comme une famille, dit-elle. On se connaît bien, on discute et quand j'ai du mal à m'exprimer en français, je parle avec mes mains, avec mes yeux. Ils sont humides, ses yeux. Les camps se trouvaient tout près de chez moi, glisse-t-elle. Je sais, il faut que j'oublie, que j'efface ce souvenir qui me fait souffrir. Mais ce n'est pas facile. Il faut laisser du temps au temps. Aujourd'hui, Mounifa se réjouit d'avoir changé de discours. Oui, c'est difficile de vivre ici, loin des miens, de ne pas parvenir à conserver comme je le voudrais. C'est difficile, mais c'est possible. Il suffit d'essayer, de rencontrer d'autres femmes. Quand on reste seul chez soi, on ne trouve rien. Alors se prendre par la main, sortir et créer des liens. Eh bien, par exemple, ça a mené Souad, qui elle a 26 ans, sur les planches. Des pavés de la place de la fête de la cité à Lausanne l'été dernier, à la scène du Vide-Poche où elle joue, eh bien, dans un spectacle mis sur pied par l'association Pôle Sud, où elle prend des cours de français avancé. C'était super, nous étions 9 comédiens et tous étrangers. Souad est somalienne, elle a 19 ans lorsqu'elle arrive en Suisse. Seule, sa famille ayant trouvé refuge en Angleterre, où elle n'obtient pas, elle, l'autorisation de se rendre. Depuis 7 ans, c'est le système D, formation d'interprète à appartenance, Somalie, français, anglais. Elle traduit régulièrement dans 2 hôpitaux de la ville, cours d'informatique, et puis un saut au centre femme de temps en temps. C'est bon pour la tête, dit-elle, tout sourire. Pour Léla, eh bien, c'est les cours de français dont elle n'a pas besoin. Mais pourquoi aime-t-elle venir ici au Centre Femmes? Eh bien, parce que je peux débarquer n'importe quand, sans avoir besoin d'appeler ni de prendre rendez-vous. Donc, c'est comme à la maison. Pourtant, il y a 4 ans... Leïla quittait une Algérie déchirée. Je me suis enfuie à cause de la guerre, mais peut-être que j'aurais essayé de partir de toute façon, avoue-t-elle. La seule manière de quitter ma famille, c'était de me marier. Impensable. Longtemps, elle essaye de donner le change, je laissais croire que je me ferais au genre de vie des autres femmes, soumises, traditionnelles, comme ma mère. Mais à l'intérieur de moi, je rêvais d'une fille de femme autonome, une vie libre, que l'on soit mariée ou célibataire. Aujourd'hui, j'ai compris. Pour réussir professionnellement, les femmes européennes doivent faire des sacrifices. Elles aussi, et les hommes pas. Souad, la Somalienne, elle, reste bouche bée en observant les Suissesses qui courent dans tous les sens entre boulot et bambin. N'est-ce pas un peu stressant, non? N'empêche que ni Leïla, ni Souad n'imaginent plus de retour au pays, même si, ici aussi, on me conseille de me marier, conseille Leïla. Coup de fil régulier à sa famille, parce que, dit-elle, ils ont besoin de me parler, de raconter ce qu'ils vivent. Alors j'écoute, j'apprends qu'une de mes voisines a été assassinée, et une nouvelle vie ici dont elle ne leur souffle le mot. Ils ne comprendraient pas. Elles s'en vont, quittent le centre, tirent la porte dans un tintement de grelots. Le centre femme, au centre femme, la vie des migrantes paraît presque idyllique, non ? Demi-sourire. Là, vous avez vu le beau côté des choses, dit Natacha. Ouf, il y en a un. Sangaré dans Remue Ménage, Onde Femme, Radio Zone 93.8. Notre planète femme nous entraîne non pas dans un pays différent, nous sommes toujours en Suisse, mais dans une planète inhabituelle qui est celle du temps. Et les femmes qui ont été longtemps confinées dans des tâches de petites mains d'ouvrières dans l'horlogerie, eh bien aujourd'hui investissent désormais tous les domaines de cette industrie et marquent à leur façon le temps. Quatre portraits de femmes dans cet article « L'heure des femmes ». Joséphine Mertenat qui a passé de l'œnologie à l'horlogerie. Aujourd'hui, elle travaille chez Rolex et elle s'occupe des réparations finales pour les modèles féminins à mouvement automatique. Rosemée Christen, elle est le bras droit du patron chez Blancpain. Quant à Véronique Allegro-Stelet, eh bien, elle travaille avec son père. Et puis, Muriel Séchaud, elle est spécialiste de la miniaturisation sur émail. Et par exemple, elle s'occupe des collections historiques chez Vacheron Constantin. Dans les travaux de minutie exigeant patience et dextérité, les femmes sont plus compétentes que les hommes. Dans la pose des aiguilles, de la glace, du cadran, le contrôle de la montre, elles sont irremplaçables. Et qui est-ce qui dit cela ? Eh bien, c'est François Mathilde qui est responsable des relations publiques de la Convention patronale de l'industrie horlogère. Il ajoute que si les femmes se sont longtemps vouées à ces tâches, c'est peut-être parce qu'à une certaine époque, la brièveté de la formation et le fait de pouvoir exercer chez elles leur convenaient bien. On lui laisse son jugement. Mais la crise horlogère passée, les femmes ont commencé à vouloir sortir d'un rôle qu'elles n'avaient pas toujours choisi. Ainsi, depuis l'année scolaire 1994-1995, les quelques 331 horlogers, rhabilleurs et horlogers microélectroniciens en formation sont autant des filles que des garçons. Et si quelques personnalités féminines ont eu ces dernières années les honneurs des rubriques spécialisées, d'autres sont moins connues. Il convenait donc d'essayer de réparer cette injustice en donnant la parole à quatre d'entre elles. Joséphine Mertena, je vous le disais, a passé de l'œnologie à l'horlogerie. Elle exerçait déjà son métier de sommelière à Seignelay quand elle a eu des problèmes plantaires et qu'ils se sont aggravés. Alors après plusieurs opérations, les médecins lui ont conseillé de changer de métier pour éviter les stations prolongées. Et pour la jeune Joséphine, le diagnostic était très sévère parce qu'elle excellait dans sa fonction et elle a dû faire le deuil de tous ses projets et ce n'était pas facile. Mais le choc passé, elle a décidé de reprendre des études. J'étais attirée par tout ce qui est petit, dit-elle. J'aimais faire de la dentelle, du crochet. J'ai toujours eu beaucoup de patience et je me suis dit, pourquoi pas l'horlogerie. 4 ans plus tard, en 1996, elle a réalisé son rêve puisqu'elle sort de l'école d'horlogerie et de microtechnique de Porrentruy, un diplôme d'horlogère rabilleuse en main. Pourtant, une petite ombre subsiste parce que dans son premier métier, elle regrette de son premier métier le contact avec les autres et elle ne se voit pas du tout derrière un établi toute la journée. Et alors elle choisit de suivre les cours organisés par le Centre international de formation continue commerciale pour l'horlogerie bijouterie. Et en 3 mois, on acquiert là-bas d'autant mieux une formation en gestion et vente que l'enseignement est assuré par des spécialistes qui excellent dans leur branche. On touche à tout. J'étais la seule à être horlogère de formation. Beaucoup d'étudiants avaient des parents dans le métier et voulaient donc se perfectionner en technique de vente. Un stage d'une semaine à la bijouterie-horlogerie lausannoise Guillard s'avérant concluant, elle est engagée. Alors, est-ce qu'elle est casée? C'est pas vraiment son style. Et au bout d'un an, le côté manuel commence déjà à lui manquer. Elle a donc fait des offres spontanées. Dit-elle, je ne voulais pas quitter le Jura et Rolex était ma marque de référence. Une chance, puisque depuis le 1er octobre 1998, Joséphine a rejoint l'atelier de décolletage de l'entreprise installée à Bienne et est chargée des petites réparations finales, comme je vous le disais, pour les modèles féminins à mouvement automatique. Elle savoure son bonheur parce que, pour elle, dit-elle, Rolex représente le summum. Parce que toutes leurs montres sont chronomètres, ce qui leur garantit une précision parfaite. Sensible au fait que Rolex encourage l'ambition, traitant les hommes et les femmes sur un pied d'égalité, Joséphine laisse déjà entendre qu'elle a bien l'intention de bouger. Et le vin, ses premiers amours dans tout cela? Je n'ai aucune nostalgie, dit-elle. Ici, devant mon établi, je suis seule responsable de mes travaux. Dans un restaurant, on dépend de tout le monde, de la cuisine, de la salle. Moi, j'aime toujours le Bourgogne et je continue à assister à des dégustations. Rosemée Christen, elle est le bras droit du patron chez Blancpain. Qu'est-ce qu'il en dit d'elle d'ailleurs, ce patron, c'est-à-dire Monsieur Jean-Claude Biver, directeur général de Blancpain? Eh bien, elle est très loyale, dit-il, très fidèle, très compétente. Elle n'a pas les pieds sur terre, elle a les pieds dans la terre. Autrement dit, elle est indéracinable, avec un incroyable bon sens et beaucoup de pragmatisme. Propos flatteurs que ceux de ce directeur général de Blancpain, Monsieur Biver, à l'égard donc de Rosemée Christen. J'ai été sa collaboratrice, dit Rosemée Christen, au sein d'une autre entreprise. Un jour, il m'a proposé ce projet fantastique où tout était à faire. Le projet fantastique, eh bien, c'était le rachat par Jean-Claude Biver et de son associé de la prestigieuse marque familiale Blancpain. Si elle avoue, Rosemée, déjà un penchant certain pour les belles montres, eh bien, elle ne connaît pas grand-chose en fait à l'horlogerie. Mais qu'à cela ne tienne, au début, elle a passé des heures entières à plancher sur la compta, elle détestait les chiffres, mais pour rien au monde, elle n'aurait demandé de l'aide à son patron. Il était déjà bien assez occupé. L'histoire de Blancpain était merveilleuse. Nous recevions des boîtes pleines de chenilles et nous découvrions en même temps des archives fantastiques. Comment ne pas avoir envie de faire renaître tout cela ? Les montres sont carrées, rectangulaires, tout à mouvement mécanique bien sûr. Et le patron, Monsieur Jean-Claude Biver, décida un retour exclusif à la forme ronde. Le cercle symbolise parfaitement le mystère du temps, précis, infini, et rappelle que l'horlogerie est issue de l'astronomie. Alors à l'époque, nous étions 7, se souvient Rosemée. Aujourd'hui, la manufacture emploie 82 collaborateurs. J'ai tout appris de mon patron et en échange, je m'organise pour que rien ne lui échappe. Être son assistante, c'est respecter la règle des 3 C. Concentration, cohérence, continuité. Note de la lectrice, je ne sais pas si vous connaissiez cette règle-là. Il faut être à l'écoute et c'est d'autant plus facile qu'il est lui-même très fidèle. Il n'arrête pas de se lancer des fleurs, ces deux-là. Rosemée passe aussi du temps dans les ateliers installés sur place à Podet. C'est une chance folle de démarrer une entreprise, dit-elle. Au début, il n'y a qu'un modèle, on n'a donc aucune peine à le cerner, puis un deuxième et ainsi de suite. Les calibres, maintenant, je les connais tous, les fonctions aussi. Il m'est impossible de vendre ou d'aimer quelque chose que je ne maîtriserai pas à fond. Alors Rosemée travaille en moyenne pour faire ce travail 10 à 12 heures par jour et elle admet en riant qu'elle en fait parfois un petit peu trop. Tiens. Pas étonnant qu'elle s'entende si bien avec son patron, lui qui reconnaît être trop de tout et toujours. Véronique Allegro-Stelette, elle, c'est une autre histoire. On parle de création en famille. Au départ, mon rêve était de restaurer tranquillement, en atelier, des pièces d'horlogerie anciennes. Mais à l'école, j'ai réalisé que j'appréciais aussi beaucoup l'aspect construction, création du mécanisme. Donc, Véronique Allegro-Stelette enchaîne donc une formation d'horlogère rabilleuse avant de rejoindre son père chez Matthew Norman, dont la spécialité est la pendulette d'officier. Après quelques 2 années, père et fille quittent de concert la fabrique horlogère, entre-temps rachetée par Suiza. La tentation est grande d'associer leurs talents, mais pourquoi pas dans des pendules à grande complication, produit d'une osmose entre l'art horloger et bijoutier verrier. Des pendules sans cadran, dont le mouvement est mis en évidence, chaque composant terminé à la main dans la plus pure tradition horlogère, et les aiguilles travaillées dans une ornementation qui s'inspire de la nature. La technicienne de l'équipe, eh bien, c'est Véronique, très fière d'avoir elle-même développé un quantième perpétuel, tandis que son père se charge essentiellement de la terminaison des pièces. Ainsi, Osmose est née. Osmose, dont le nom symbolise l'entente entre les deux partenaires, mais aussi la réunion de plusieurs univers. Osmose, vous l'aurez deviné, est bien évidemment le nom d'une de leurs créations horlogères. Nous avions longtemps hésité à marquer les horloges de notre propre nom, confie Véronique, insistant sur la communion qui les unit, son père et elle. Mais Osmose résumait le mieux notre démarche. En verre, laiton, or 18 carats pour les personnages, chaque création est proposée en série limitée, 25 ou 50. Membre de l'Académie horlogère des créateurs indépendants, Véronique peut aussi compter sur l'appui de son époux, très actif dans l'informatique industrielle. C'est vraiment une histoire de famille. C'est grâce à lui, dit-elle, que nous avons pu créer sur un support informatique, donc rationalisé. Ah, rationalisé, c'est le fort de Véronique. Entre la création horlogère, l'enseignement à l'école d'horlogerie et de microtechnique de Porrentruy, un rôle d'assistante en informatique et 2 enfants en bas âge, c'est même une absolue nécessité. On est d'accord avec elle. Muriel Séchaud, quatrième portrait de ces femmes qui marquent leur temps, le temps à leur façon. Elle est miniaturiste sur émail. Après un méticuleux dégraissage du fond en or de la montre, j'y dépose une couche d'après blanc composée de poudre d'émail et d'huile de santal, cuit au four puis poncé 5 à 6 fois pour éliminer la moindre irrégularité. Vient alors la reproduction la plus minutieuse possible de l'œuvre de référence, tracée point par point à l'émail de couleur, déposée à l'aide d'un pinceau ne possédant qu'un poil unique. Quel travail! Lorsque l'on sait que Muriel Séchaud passe des heures rivée au binoculaire, que la difficulté du travail exige qu'une main maintienne en permanence l'autre main qui peint et qu'une telle réalisation exige quelques 400 heures de travail, on ne peut s'empêcher de regarder Muriel Séchaud comme un phénomène. Et elle s'en amuse bien. C'est dans ma nature, dit-elle, de rechercher la difficulté. C'est l'une des raisons qui m'ont attirée vers la miniature. Les deux autres sont dans l'ordre, la couleur et les techniques. Ces dernières enchantent la jeune étudiante des beaux-arts qui se destine à la restauration des tableaux. Son but, le musée de Bâle, où elle pourra se perfectionner. La rencontre avec son futur époux bouscule tous ses plans. Tiens. Elle ne souhaite plus quitter Genève et se charge des restaurations de pièces anciennes que son père, joaillier bijoutier orfèvre, lui fournit. Encore une histoire de famille. C'est par les montres, on s'en doute, qu'en 1990, elle entre en contact avec le PDG Claude Daniel Prolloc. 8 ans plus tard, le bonheur est intact, en dépit de tendinite, d'épicondylite et autres mal de nuque que lui vaut cette passion qui ne peut s'exercer plus de 5-6 heures par jour. La réalisation commence par la réduction progressive de l'œuvre choisie par M. Prolloc aux dimensions imposées, un cercle de 4 cm de diamètre. Certains dessins se prêtent plus que d'autres. Il m'arrive de devoir rapprocher un groupe de personnages pour les faire mieux tenir dans le cercle de la montre, mais en principe, je cherche à me rapprocher au mieux de l'original. J'amène petit à petit, par couches successives, la couleur, le détail que des passages répétés au four stabilisent. Mon travail de restauratrice de tableaux m'aide énormément, car même si elle se transforme à la cuisson, je visualise bien les teintes, je repère tout de suite s'il faut mettre une pointe de bleu ou de violet dans le verre, un peu de rouge. Enfin bref, intarissable sur son métier, Muriel Séchaud hésite pourtant quand on l'interroge sur ses peintres préférés. J'adore Turner ou Picasso, mais pas dans leur globalité. Je dirais que je suis plus sensible à un arrangement de couleurs. Comme en musique, je réagis par vibration, qu'il s'agisse d'opéra, de classique ou de variété.